Il est bienvenu avec Leïla Cadeau-Boudelville, Jérémy Crédville, Frédéric Sigrist, Tom Villa, tout à l'heure Tanguy Pastureau et nos invités Camille Chamou et François-Vincent Tellier. Avec cette série que nous avons découverte avant que vous ne puissiez la voir, ça passe ce soir sur Arte à 20h55 et c'est vraiment bien. Voilà, fin d'émission,
merci,
bonne journée, au revoir.
J'ai adoré, mais j'ai envie d'avoir encore une saison et encore une saison.
Amours. En plus, oui, toi, tu n'as pas regardé le premier épisode, t'as tout regardé.
Les trois.
Gourmande. J'ai deux amours avec vous, entre autres, puisqu'il y a également Julia Faure, Olivier Barthélémy, Catherine Salé, Yel, qui est... très proche de vous.
Très proche de moi.
Dans cette série, Camille. J'ai dit tout à l'heure, en parlant avec Ali Rebehi, qu'il y avait tout. Homosexualité, hétérosexualité, gay, lesbien, il y a vraiment tous les...
Amour, tout simplement.
Tous les angles, tous les angles, voilà, c'est ça. Oui, mais j'ai deux amours. Donc la dualité est très présente, puisque beaucoup de questions viennent envahir votre esprit. Pour resituer, ne serait-ce que le premier épisode, François-Vincent Tellier, vous êtes en couple avec... Alors, vous êtes médecin et vous êtes en couple avec un boucher.
Voilà, je suis médecin urgentiste et je suis en couple avec Olivier Barthélémy qui joue un boucher.
Il ne faut pas se tromper de personne. Quoi.
Et là, vous voyez arriver à l'hôpital une jeune femme blessée, qui a une entaille à la cuisse. Et vous voyez le nom sur une fiche et vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas y aller parce que c'est un amour qui a compté énormément pour vous.
C'est un amour adolescent que je retrouve 20 ans après et je ne veux absolument
pas
l'avoir.
Par Julia Faure.
Julia Faure, et je suis quand même obligé d'aller la recoudre. Donc d'être
la
très près.
La soigner, on va dire la soigner, François. Parce que là,
oui, mais parce qu'elle a une petite coupure, donc je la recoue.
Non, elle est costaud quand même, sa coupure.
Oui, c'est une entaille, c'est pas joli.
Oui. Ah ouais, il manque un bras quand même.
et donc, je me retrouve très près de sa cuisse et je retrouve quelques sensations que j'ai connues 20 ans auparavant.
C'est ça.
Et je retombe fou amoureux d'elle.
Et donc voilà, et là tout bascule, il y a cette première histoire en parallèle, l'autre histoire étant la vôtre, Camille Chamou, vous êtes lesbienne, vous viviez avec une demoiselle qui ne veut pas avoir d'enfant, donc vous la quittez ou elle vous quitte, enfin ça
exactement.
Il y a des rebondissements là-dessus.
Mais quand la série commence, du coup je suis célibataire.
C'est ça.
Et vous bientôt 40 ans.
Voilà.
C'est ça, donc
exactement.
Il faut se dépêcher.
Et vous demandez au couple homosexuel joué par François-Vincent Tellier et Olivier Barthélémy de vous prêter quelques gamètes, quelques...
En fait, on décide même carrément ensemble, tous les trois, de faire un enfant. C'est-à-dire que eux, c'est un désir depuis longtemps, quand on commence la série, visiblement.
Oui, mais par éprouvette.
Et moi aussi. Oui, complètement. Ah, complètement. Dans les règles.
En Belgique.
Voilà, dans les règles de l'art en Belgique. Et on part dans une clinique, c'est le début de la série,
pour
faire une PMA, tout ça.
Ça s'appelle, appelons un chat. Et là, tout part. Mais ce qui est fort, c'est qu'il y a évidemment le côté affectif, les moments de doute pour vous, François, en disant, mais de qui suis-je amoureux, de mon ex, qui est une fille, de mon actuel, qui est un homme. Et vous, les moments de doute, en effet, l'horloge biologique, est-ce que ça va prendre ou pas, est-ce que je vais être enceinte ou pas, et puis alors le pire truc qui puisse arriver, c'est vous retourner chercher des fringues chez vous que vous aviez oublié, et là vous
chez mon ex, ouais.
Voilà, on va pas dire ce qui se passe, on va quand même vous laisser le plaisir de tout découvrir dans la série, mais c'était pas une bonne idée d'y retourner en tout cas.
Non, voilà, exactement. Non, mais en fait tout ce que vous décrivez, enfin dans tout ce que vous décrivez, je trouve que la force de la série, c'est qu'il y a vraiment une mécanique de boulevard, exactement comme, sauf que le boulevard c'est un genre extrêmement drôle avec effectivement en gros des portes qui claquent, des amants dans le des trucs. Et il y a la même chose dans
des
cette
surprises,
série.
Des surprises, des trahisons.
Des surprises, des trahisons, de l'amour, mais parfois décalé, voilà, des mensonges, etc. Sauf que c'est un boulevard d'aujourd'hui, donc avec toutes les formes de relations affectives, amoureuses, sexuelles d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment la mécanique du boulevard. François, vraiment, a toute une partition très clownesque dans la série qui, moi, me fait mourir de rire parce qu'il est tout le temps en train de se cacher de trucs. Au fur et à mesure, il s'enferre dans plein de mensonges parce qu'il veut aimer.
Tout simplement, sans cynisme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est perdu parce que lui, il croit à la...
À tous ses amours,
ses polyamours. Il pense que que la bigamie est possible. Et il veut aimer une femme et un homme en même temps.
Sauf même quand il dit la vérité, on le croit pas, tellement il ment.
Tellement il ment.
C'est ça.
Dès qu'il essaye de dire la vérité et qu'il dit j'ai couché avec une femme il meurt de rire parce que c'est pas possible, parce que je suis complètement homo.
Sauf que c'est pas tant qu'il veut avoir un homme et une femme, c'est que ça s'impose à lui. Il est amoureux.
Oui, sauf que.
De même qu'on choisit.
Il ment quand même à tout le monde.
Oui, mais forcément, parce qu'il veut préserver tout le monde. Il veut préserver.
Voilà, exactement, par amour. Il ment par amour.
Et puis, il y a deux formes d'amour aussi, parce qu'il y a, j'ai deux amours. Est-ce que j'aime un homme, est-ce que j'aime une femme? Et puis, il y a deux formes d'amour qui est l'amitié et l'amour aussi, parce qu'il y a aussi un trio d'amitié qui s'installe dans la série.
Bien sûr.
Exactement.
Justement, entre Camille et ses deux amis.
La série, elle traite aussi beaucoup des nouveaux schémas familiaux, parce que c'est vrai que depuis 15 ans, 20 ans, la société est très chamboulée en ce qui concerne les schémas familiaux, et les gens inventent des nouveaux schémas. On se dit même, mais c'est fou. En fait, il y a encore 20 ans, on pensait pas que, et de plus en plus, dans la tête des gens, le plus important quand on a un enfant, c'est qu'il y a un maximum de gens qui l'aiment. Bon, nous, on est très, très nombreux. On est très nombreux à vouloir un enfant. Et c'est vrai que les nouveaux schémas familiaux sont très bien explorés, enfin, je crois, dans la série, quoi. Tous les genres de nouveaux schémas.
Préciser une chose, c'est, je sais pas s'il y a une interdiction au moins de 10 ans ou de 12 ans dans la série, mais enfin.
Ce serait fou.
Il y a des scènes d'amour.
Il y a des scènes d'amour.
Ça reste de l'amour, mais il y a des corps nus qui sont montrés. Pardon?
Oui, non, mais vous trouvez qu'il y a des scènes qui ne sont pas regardables? Moi, je dirais moins de 12 ans. 12 ans,
voilà.
Oui.
Non, mais je parle des enfants.
Bah, je pense qu'après, avant, ils ne comprennent pas.
Si, ils comprennent tout.
Après, non, mais en tout cas.
Ils ont une connexion Internet.
Voilà, vous avez raison de spécifier qu'il y a quelques scènes, non pas du tout crues ou choquantes, mais il y a des scènes d'amour. C'est d'ailleurs l'un des attraits et des intérêts de la série. C'est des scènes d'amour, mais il n'y a absolument rien de choquant. D'ailleurs.
Est-ce que vous vous êtes posé, vous, la question quand vous avez lu le script? D'abord, est-ce que quand on reçoit un script et qu'on dit un tel fait l'amour avec un tel ou avec une telle, et on ne sait pas comment ça va être cadré, on ne sait pas si c'est l'amour sous les draps ou debout totalement nu, on ne sait pas. Non, mais est-ce qu'on se pose cette question? Vous en foutez-vous?
Ah oui, moi je m'en fous. Moi, j'ai fait une série qui s'appelle Hard et je peux tout faire. Non, après,
c'est là où se situe ta pudeur, mais t'as de la pudeur, mais elle est pas là.
Non, c'est des scènes qui sont compliquées. Hein. C'est des scènes, c'est des cascades, forcément, parce que embrasser quelqu'un sans amour, c'est toujours très spécial.
Que ce soit un homme ou une femme. Est-ce que la question se pose, alors pour un homme ou pour une femme, Camille, de dire au réalisateur, est-ce que vraiment là, je suis obligé d'être seins nus face caméra, ou est-ce que tu peux pas juste me cadrer
En fait, elle se pose pas
le haut des épaules et pas plus.
Moi, je suis un peu comme Vincent, François. Vincent, François Telly. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai le même truc que François. Je n'ai aucune pudeur si j'ai confiance dans l'œil du réalisateur. Et normalement, à notre âge et avec notre expérience, on a confiance dans les réalisateurs qu'on choisit de suivre.
Moi, je suis un peu pudique de la verge.
D'accord.
Voilà. C'est un peu le seul.
Ouais, moins de la fesse.
Même en grand temps.
La fesse, rien du tout.
Ouais,
la fesse,
ça,
moi, ça m'a toujours fait mourir de la fesse. J'adore. Moi, je suis
une
fessière. Il n'y a pas un film où je ne vois pas mes fesses.
Mais on sent quand c'est justifié ou pas. Je ne sais pas comment dire. C'est une évidence.
La phrase, au fond, festival de fesses. Il n'y a pas un film où je ne vois pas mes fesses. C'est quand même formidable.
C'est le seul endroit où je peux le voir.
Il y a des cabines d'essayage aussi.
J'ai des miroirs aussi.
Et puis, quand on parle de nudité, on a évoqué hier le film d'Adèle Hatif Kechiche avec la scène préliminaire
qui n'avait pas de préliminaire,
mais qui était assez chaude. Là, dans cette série, moi, ce qui m'a plu dans ces trois épisodes, c'est qu'on voit aussi bien le corps de la femme que de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit même des
accessoires.
On a Olivier Barthélémy qui se lève parce qu'il a l'habitude d'aller boire un coup d'eau la nuit. Eh bien, il est dans le plus simple appareil. Généralement, un homme, on lui aurait mis un caleçon, la nana, on l'aurait fait à venir nu.
C'est très juste.
Et je trouve que tout d'un coup, au-delà de la thématique du triangle amoureux qui est hyper moderne, je trouve que dans la façon de raconter l'histoire, de montrer les personnages, c'est hyper moderne aussi et très égalitaire.
Et c'est drôle.
C'est exactement pour ça, en fait. Je pense que tout passe. C'est que aussi, en plus, le tout est dans une vraie comédie.
Oui, on parle de ça
sans
pathos. Parce qu'avec tous les. C'est vrai qu'avec tout ce qui. Enfin, le retour en France de le printemps pour tous, tout ça, les machins et tout, il faut que tout le monde se détende par rapport à plein de choses.
Le printemps pour tous.
Non, c'est pas ça le
mariage. La fête du cinéma.
Le printemps arabe.
Le printemps arabe pour tous.
Tu mélanges la manif pour tous avec le printemps arabe. Ça donne. Ouais, c'est ça.
Et le printemps du cinéma.
J'adore cette expression,
le printemps pour tous.
J'aime aussi la manif pour arabe. C'est un truc qu'on devrait lancer aussi.
Mais
plus tard, pas tout de suite. ça s'appelle.
En tout cas, la série a été projetée au festival de Luchon devant, paraît-il. Donc moi, j'y étais pas, toi, t'y étais, je crois. Un public vraiment. Non, dedans, vraiment un vrai public. Les mecs qui comprennent tout. Un vrai public. Je pense à mes parents, par exemple, parce que j'ai dit hier à ma mère, j'avoue, non, mais laisse tomber, ce sera pas une série pour toi. Et après, je l'ai rappelé, j'ai fait, mais non, mais je suis idiote, enfin, ça suffit. D'ailleurs, elle écoute ce matin. Donc maman, tu peux regarder ce soir. Je t'autorise. Non, mais c'est vrai parce que en fait, depuis, il y a Clément qui m'a dit, effectivement, le réalisateur Clément Michel qui m'a dit au téléphone, mais tu sais, il y avait énormément de gens septagénaires dans la salle, et dont un couple qui est à côté de lui et qui, au moment d'une scène avec accessoires, a dit à sa femme, attends, c'est hyper drôle ça, mais on devrait essayer. Ah ouais. Ce qui me fait quand même beaucoup rire parce que je me dis, c'est le rôle éducatif de la télévision.
T'étais à Luchon, Nagui, alors, c'est extraordinaire. T'étais à Luchon, alors, du coup.
Voilà, le printemps pour tous.
J'ai deux amours, cette série en trois épisodes sur la bisexualité, les nouveaux schémas familiaux.
La bigamie.
Exact, réalisée par Clément Michel, écrite par Olivier Joyard et Jérôme Larcher, avec Julia Faure, Olivier Barthélémy et nos invités Camille Chamou et François-Vincent Telly. Tom Villa, vous avez compris pourquoi nous avions invité Camille et François?
Évidemment, on va refaire le pitch pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, vous l'avez dit, un homme qui a aimé une femme. Cet homme aime maintenant un homme, mais il retombe amoureux de cette femme alors qu'il devait avoir un enfant avec l'autre homme. Et du coup, il est perdu et veut pas choisir. D'où le titre, J'ai deux amours. Voilà. Donc s'il y a des gens de la manif pour tous qui nous écoutent, pas de panique, les secours sont en route, c'est rien de grave. Personne n'est jamais mort d'une petite crise d'angoisse. J'ai deux amours, voilà. Moi, je dis bravo, parce que moi aussi, j'ai deux amours et je parle rarement de moi à l'antenne, mais là, le sujet s'y prête. Donc je vais laisser un petit message personnel. Voilà, papa, maman, je viens toujours déjeuner dimanche midi, moi aussi. Je vous conseille de rajouter deux couverts. Alors, je viens pas avec un mec et une fille, je viens juste avec Fred Sieriste, il bouffe comme quatre.
Donc t'as quatre amours.
Mais là, c'est vrai qu'on est plus dans
enfin,
un...
Enfin, tu vas leur dire.
Arrête de me toucher. C'est gênant quand même, on a dit en antenne. Non, mais c'est vrai que voilà, on est plus dans un schéma dit classique. Hector et Jérémy sont en couple. Ils veulent avoir un enfant avec leur copine Anna, qui est lesbienne. Mais Hector est aussi amoureux de Louise, qui, elle, n'est pas lesbienne. Combien de temps faudra-t-il à Jérémy pour qu'il se rende compte du stratagème avant qu'Hector ne craque avec Louise? Voilà, vous avez deux heures, sortez les copines. C'est vrai que des fois, c'est pour ça, la monogamie, ça a du bon. Rien qu'au niveau du prénom, pas de risque de se planter. Une personne, un prénom, voilà. Après, si t'es bisexuel, t'appelles ton mec Louise, c'est plus facile de dire que c'est ta secrétaire, ça veille moins les doutes. Ou alors, si t'es hétéro, faut prendre une secrétaire avec un prénom de mec, Christophe ou Cyril, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que quand t'es monogame, ça rassure tout le monde. Je veux dire, de savoir que toi aussi, tu vas te faire chier à essayer de trouver de nouveaux sujets de conversation au bout de 3 ans de mariage.
C'est vrai. Mais n'importe quoi.
Mais si, c'est vrai. C'est un peu comme les gens qui vont au resto et qui prennent toujours la même chose. Ils disent, oui, comme ça, je sais à quoi m'attendre, je suis jamais déçu. Oui, d'accord. Mais t'es jamais surpris non plus. Et puis le resto, au début, t'y vas deux fois par jour. Et puis au final, t'y vas plus qu'une fois par mois. Et puis quand t'y vas, tu gardes tes chaussettes pendant que tu manges. Et puis tu t'endors après le dessert. Voilà. En même temps, le polyamour, c'est pas facile d'assumer, d'avoir deux relations en même temps. C'est vrai. Après, quand ça se sait, tu te retrouves avec une ex qui pète les plombs, qui dit merci pour ce moment et qui accuse de porter des jugements sur l'état de dentition des pauvres, c'est pas toujours évident, c'est vrai. Et puis le polyamour, c'est que des emmerdes. C'est plus d'anniversaires, donc plus de cadeaux à trouver. Voilà. Même si maintenant, Smartbox a fait énormément de progrès, mais ça fait quand même beaucoup de week-ends relais château. Après, l'avantage du polyamour, c'est que quand tu te fais larguer, bah, techniquement, t'es pas célibataire. Et ça, c'est pratique. C'est comme un jeu vidéo, il te reste une vie pour finir le niveau. Bref, ça s'appelle J'ai deux amours. Moi, j'aurais appelé ça J'ai 50 ans merde, mais malheureusement, Joséphine Baker, elle l'a jamais chanté.
Merci, bravo. C'est illustré.
Wow. Bien sûr.
Puisqu'on parle de musique dans la série, c'est plutôt.
Ça, c'est Yel.
C'est Yel.
Voilà, ça, c'est vraiment la musique de la série.
Elle est super, hein, cette chanson.
Pas de geste, Nagui. Hein.
Les ciseaux.
Hashtag la vie d'Adèle.
Il y a des gens qui regardent en vidéo, je vous rappelle.
Ouais. Eh ben, ils comprendront ce qui se passe avec Yel.
Ouais.
C'est tout. Leïla, je n'ai qu'un amour, c'est pour Leïla dans cette émission. Et vous savez pourquoi. Non, vous savez, oui. Vous
regarde.
Je suis troublé. Non, il reste demain. Vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous a dit que Camille Chamou revenait dans cette émission avec François-Vincent Telly.
Oui, et quand je pense à vous deux, Camille et François, je pense à elle.
Oui, ça veut dire le féminisme. À un moment donné, ça veut dire qu'on sort le sexe de l'indignité, de la honte, de la fange, de la dégueulasserie. C'est ce qu'on cherche à faire. On a vraiment changé le monde. On a changé le monde d'une façon totalement non-violente. Et on l'a changé d'une façon active. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait tout seul parce que les mecs sont tellement sympas. Petit à petit, ils sont mis à se dire que... Ou parce qu'ils ont compris. On l'a changé parce qu'on a milité, on a voulu, on a fait les choses.
On a sorti le sexe de quelque chose de sale. Les femmes ont milité. Elles sont venues sur la scène publique pour défendre leur sexualité. Dans cette série, il y a aussi cette défense de la liberté, de la sexualité. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, je pense une série qui est importante. Là, c'est Virginie Despentes, oui, vous l'avez reconnue, qui vous a fait tourner, Camille, dans Bye Bye Blondie. Et dont le livre King Kong Theory, je crois, a pas mal compté dans votre itinéraire de femme.
Tout à fait. Bah oui, c'était pas mon bouquin de chevet, mais des autres. Enfin, je l'offrais à tout le monde quand je l'ai découvert. Ouais. Je pense que ça fait ça à beaucoup de monde parce que King Kong Theory, c'est une théorie qui renverse. C'est un livre, en fait, qui renverse vraiment toutes les perspectives qu'on a. Elle inverse, en fait, tous les schémas. Notamment quand elle parle du viol, etc. C'est complètement fou. Elle réussit à faire de tout. Elle renverse le regard, mais comme elle fait dans ses livres, d'ailleurs, où quand on lit Vernon Subutex, elle a quand même réussi à faire un best-seller incroyable. Moi, à chaque fois que je prends le train, je me dis, mais c'est fou, il y a une personne sur deux qui lit Vernon Subutex, tout en étant extrêmement radicale. Et dans ce livre, c'est exactement comme dans King Kong Theory, on rentre dans le cerveau des gens qui, même si c'est des, a priori des salauds ou des bizarres, on rentre dans leur cerveau et on les comprend. Et en les comprenant, parce que c'est ça qui est fort dans le militantisme de Virginie Despentes, c'est qu'elle comprend toujours, entre guillemets, l'adversaire. Et que finalement, ça n'est pas un adversaire. C'est un humain, elle le comprend et elle dit toujours la force, elle vient de soi. On doit, en fait, c'est nous qui devons trouver notre liberté, c'est nous qui devons... Et moi, je dis toujours, j'ai eu deux bouquins phares dans mon adolescence et ma vie de jeune femme, qui étaient Une chambre à soi Virginia Woolf, c'est les deux Virginie, et King Kong Theory de Virginie Despentes. Et à une autre époque, Virginia Woolf, elle disait, faut avoir une chambre à soi, un espace à soi dans la société pour pouvoir réfléchir et devenir quelqu'un d'indépendant. Et la femme, pendant très longtemps, n'a eu que l'espace domestique, n'a pas eu de chambre à elle. Et puis Virginie Despentes, elle dit c'est bien, maintenant on a notre chambre à nous, faut en sortir par contre. Donc c'est vraiment deux femmes extrêmement importantes, je trouve, dans la vie d'une femme d'aujourd'hui. Il faut comprendre ces deux étapes.
C'est les deux étapes. Le sexe, l'aliénation, c'est aussi un sujet que vous avez directement abordé, François, dans Hard, où vous incarniez Roy Lapoutre.
C'est un surnom.
C'est votre nom d'acteur.
C'est une légende. C'était Christophe Lapoutre.
Et vous avez même fait un documentaire, je crois, sur le monde du porno.
Ouais. Ah oui, vous l'avez vu?
Je l'ai pas vu.
Il faut le voir. En fait, ils m'ont demandé de faire ça. Donc, j'étais plongé pendant une semaine dans le monde du porno où j'ai rencontré des réalisateurs, des actrices, des acteurs. Et c'était passionnant parce que vraiment, c'est un monde parallèle.
Quel regard vous portez après ce documentaire? J'imagine que votre regard a changé. Si vous avez incarné Roy Lapoutre dans Hard, c'était quand même une comédie.
Oui.
Pourquoi vous riez?
Oui, c'est une comédie. Non, mais justement. Moi, j'ai rencontré le beau côté du porno.
Roy Lapoutre, déjà, tu te mets une pression tout seul, quoi. C'est-à-dire que tu n'as plus le droit de décevoir quand tu t'appelles comme ça.
Oui. Mais c'est pas une légende. Il est quand même menuisier. Il y en a deux, trois qui rigolent derrière.
Remarque, ça pourrait être un nom de personnage, en pas de
Alice. Déjà, la première, c'est Alice.
Alice, elle se marre.
Alors, un menuisier.
Ce que je disais, c'est que là, j'ai vu le beau côté du porno, c'est-à-dire le côté joyeux.
Pas malsain, entre guillemets.
Pas malsain, entre guillemets. Ouais. Et d'ailleurs, la série qu'on a fait, c'était un truc un peu clownesque également. Parce que je pense qu'il y a, dans la pornographie, il y a de tout, y compris de l'esclavage moderne ou des gens très malheureux. Enfin, il y a beaucoup de choses. Là, j'ai rencontré des gens qui allaient bien, des filles qui allaient plutôt bien, qui aimaient ça. Je leur posais la question de savoir, mais pourquoi, c'est quand qu'à 18 ans, 20 ans
Comment, pourquoi
c'est quoi le problème? Elle dit non.
Pourquoi moi, ça c'est un problème?
Elle me disait, moi je suis exhibitionniste et nymphomane. Et je dis, ok, d'accord. Mais si c'est ça, c'est super. Enfin, tant mieux si ça se passe comme ça.
S'il n'y a pas de souffrance,
s'il n'y a pas de viol derrière, s'il n'y a pas d'anorexie, s'il n'y a pas de plein de choses,
de drogue, ou de
choses qui font ça. Voilà. Donc, mais c'était très intéressant de voir ça.
Quelle est la différence pour vous entre le monde du porno et le monde de la mode?
Les habits.
D'où vient la question?
Les habits.
Non, parce que quand vous parlez de drogue, vous parlez d'anorexie, en fait, finalement, extérieurement, c'est ça.
Oui, non, mais je comprends.
Un autre élément qui me font penser au monde de la mode.
Simplement, faut dire
les
mannequins ou certaines actrices porno peuvent être en effet accrochées par la drogue et certains dealers les obligent pour continuer d'avoir leur dose à accepter de faire telle ou telle chose. Mais c'est plutôt des mannequins qui sont sont amenés vers le monde des escort girls que, voilà. que du mannequinat.
De toute façon, tout ça, c'est du truc de l'image et de la séduction. Ouais. Et de la, donc, c'est un peu lié, oui, ouais. C'est sûr que c'est aussi l'image de la femme, du corps de la femme, comment est-ce qu'on. De ce qu'on en fait, et bon, alors.
Et aussi le regard du public, c'est. Ouais. Je pense que pour les gens qui ont fait carrière dans le porno comme ça, le plus difficile ensuite, fois qu'elles elles sont sorties de tout ça.
Ben oui. Il faut voir l'émission que j'ai faite, parce que justement, je parlais avec une fille qui avait mon âge et qui avait un enfant de 5 ans, et je lui disais, bon, ok, d'accord, t'as arrêté maintenant, mais ça tourne en boucle sur, sur Internet, tout ça. Comment tu expliques le jour où ton fils va te voir dans des positions, voilà. Elle dit, bah oui, je sais, c'est compliqué, mais j'avais 18 ans, j'y pensais pas, je vais petit à petit lui faire comprendre.
Et parce comment, que ça doit être comment son enfant va peut-être subir aussi les moqueries, voire plus.
Bien sûr, bien sûr, non, camarades.
Si je peux me permettre, le problème se pose aussi avec des ados qui aujourd'hui font des photos sur Instagram, ça part sur Internet et elles ne se rendent pas compte que dans des années ça va revenir.
C'est un vrai sujet et c'est un vrai. Je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle. Parce que c'est ça, on en parle beaucoup.
De toute façon, la pornographie, c'est un vrai sujet aussi, parce que c'est ça qui forme les mentalités. Et que tous les jeunes adolescents, je ne sais pas si les filles regardent autant, mais je crois quand même pas mal. Je ne sais pas si c'est autant, non, mais en tout cas, jeunes adolescents apprennent la sexualité sur le porno.
C'est ça le problème.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant.
Et surtout leur dire que ce n'est pas normal, surtout. Parce que certains garçons vont se mettre la pression en disant.
Tout le monde n'est pas roi et la poutre.
Mais moi, je suis nul, je ne suis pas capable. Et des filles vont se mettre la pression en disant je dois tout accepter puisque j'ai vu la vidéo et la fille.
Et puis il n'y a pas de protocole dans l'amour. C'est-à-dire que dans la pornographie, il y a un protocole, il y a Pipe Levrette, Spoon Alal, on fera les jacques à part en fin de journée.
Merci.
Ah,
merci.
C'était
une réplique de Hard. J'ai fait très vite.
Non, mais attendez, comme quoi, quand on parlait de est-ce que les enfants et les ados peuvent regarder J'ai deux amours, il vaut mieux qu'ils regardent J'ai deux amours pour l'apprentissage de l'amour et de la sexualité.
On est d'accord, parce qu'il ne faudrait pas, je suis totalement d'accord avec vous, ne retenir que ces scènes qui sont des scènes d'amour et qui sont. Bien filmé, bien éclairé.
Parce que sinon les gens vont être déçus ce soir, ils vont regarder. Alors c'est trash,
gars. Puis clairement, on voit rien. Ouais. Enfin, si ça peut rassurer les gens, on ne voit rien. On voit un sein et une fesse.
On devine. C'est vraiment des personnes.
Alors moi j'en ai vu deux, mais.
Oui, mais parce que t'as fait avance et retour.
Très légèrement. Enfin, en tout cas, il y a de l'amour. Et c'est ça l'essentiel.
C'est ça. Il y a encore une fois de la vanne. Et surtout, c'est vraiment une série qui va bien avec
l'air du temps.
Mais exactement. C'est maintenant. On est en 2018.
Oui, d'ailleurs, c'est pas bigame, parce que bigame, ça veut dire deux femmes. C'est bi. Je sais pas quoi.
Biamour.
Ouais.
J'ai deux amours.
Ouais, t'as raison. Bah, ils ont bien trouvé ce titre, finalement.
Ils ont bien choisi leur titre. Ouais. Voici l'humeur de Jérémy Crédville.
Hey. En parlant d'amour. Alors salut à tous, pour ne pas dérouter nos auditeurs, en ce jeudi j'ai choisi de faire une chronique à la Guillermo Guise. Alors, je vais donc parler de drogue, d'alcool et de ma teub. Le tout en articulant aussi bien qu'un épileptique en pleine crise, sans oublier cette fameuse envie de crever dans un objet quelconque et sale. Et comme chaque semaine seront placés subrepticement les mots week-end et Frédéric Diefenthal. Enfin, par manque évident de charisme, je me ferai couper toutes les 6 secondes par un membre de l'équipe que je dérange pendant qu'il envoie des SMS à son banquier. Allez, c'est parti à la Guillermo Guise. Bonjour les amis.
C'est méchant. Rien que ça, c'est méchant.
C'est gratuit. Ouais. Aujourd'hui, c'est jour de grève nationale. Les gens descendent dans la rue en scandant des slogans plus ou moins élaborés, tels que on est en colère et on veut être content, le SMIC c'est pas beaucoup, ou encore on veut du sucre à volonté à la machine à café. Un jour de grève. Moi, ma teub, ça fait 2 ans qu'elle fait grève. Je te jure, j'ai la libido du genou gauche de Frédéric Diefenthal. Pourtant, j'ai 1 chance sur 2 de choper Leïla. Ouais, sans déconner les amis, 1 chance sur 2, parce que moi je veux bien. Mais elle me trouve des excuses bidons du genre ouais mais tu comprends, on est collègues ceci, ouais moi je préfère les hommes plus mûrs parce qu'en général ils ont plus d'argent, tout ça. Ou encore, tu sais, moi je présente le JT, j'ai un certain standing à tenir maintenant. Moi quand j'entends ça, mais ça me donne envie de crever dans une couche confiance. De toute façon, vous savez quoi, à ma mort, sur ma tombe, il y aura une épitaphe genre CJ, l'homme qui aura chopé toutes les MST possibles en 3 rapports. Sérieux, la dernière fois que j'ai baisé, c'était devant le Big Deal. Ma vie sexuelle, elle est aussi plate que l'encéphalogramme de Michael Schumacher. Et encore, lui s'est réveillé. Ouais. J'ai lu une phrase dans Patrick Sébastien Magazine qui disait qu'un trou c'est un trou et qu'une bite ça n'a pas d'œil. Mais si ma bite avait un œil, elle pleurerait, mon gars. Et sérieux, ma bite, elle a pas vu de muqueuse depuis que j'ai éternué dessus. Le dernier rapport consenti que j'ai eu, c'était avec ma main. Et encore, je préfère dire avec mes 5 phalanges pour que ça fasse amour en groupe. Moi, je suis comme un joueur du PSG devant un but en Ligue des Champions, incapable de tirer au fond. L'autre soir, J'étais en boîte avec un verre à la main. Ouais, comme d'habitude, tu me diras, mais on n'a jamais vu Drucker sans son chien. Et là, au loin, je vois une meuf enceinte. Enceinte, en boîte. Tu vas pas avec ton burger à McDo, je veux dire. Non mais, corporellement, elle envoyait le même message à tout le monde. Moi, il y a moins de 9 mois, j'étais en train de baiser. Et elle buvait de l'eau. J'ai dit, c'est quoi ton projet? Tu fais du sponsoring pour Champomy sans alcool, la fête est plus folle ou quoi? Non mais, moi sans alcool, je serais encore puceau. Si les femmes ne buvaient pas, jamais j'aurais pu tester la sodomie. Non, non pardon, je déconne. C'est sans le GHB que j'aurais jamais pu avoir ce projet. Non mais, tu la vois à la gueule de ceux qui boivent pas en boîte? Parce qu'ils ont été désignés capitaine de soirée. Sam, là, ça me fait chier, oui. Non mais c'est tout ce que leur visage raconte. Non mais attends, on devrait pas boire sous prétexte qu'on est censé raccompagner nos amis qui se bourrent la gueule. Mais au prix que t'es capable de dépenser pour une bouteille en boîte, prends un taxi, fieu. Pas plus tard que ce week-end, j'étais dans un taxi avec une blonde, l'alcool et la drogue aidant. On est rentré, on a fait l'amour pendant qu'elle dormait. C'était pas un rapport consenti, mais c'était pas un rapport non consenti non plus. Je veux dire, tu prends pas un taxi à 4h du matin avec le mec qui t'a payé des verres toute la soirée pour simplement vérifier si les moulures de son plafond sont d'origine. Bref, 4h12, je lui fais l'amour, 4h15, je m'endors, et le lendemain matin, je me suis rendu compte qu'elle était pas franchement jolie, quoi. Honnêtement, on aurait dit Daniel Morin avec une perruque. Et le pire, c'est que c'était lui. Allez, bonne émission, les amis.
Bravo Guillermo, bravo
Guillermo.
Sur France Inter.
Qu'est-ce qui t'a fait Guillermo pour
il m'inspire. Cet homme m'inspire.
Ouais.
Il t'a déguisé aussi.
Belle imitation. Belle imitation. Ouais. Et on embrasse Guillermo.
Bien sûr, de la
Qui aura évidemment le droit de se moquer de Jérémy Crétville. En fait, on va faire des clashs à distance. Dans la bande originale, Camille Chamou et François Vincent Elis sont nos invités. On va parler évidemment encore de cette série J'ai deux amours que nous avons aimé. Ces trois épisodes à voir sur Arte. Et puis ensuite, nous allons.
Tourner à Strasbourg.
Ouais, tourner à Strasbourg, c'est vrai.
Belle ville.
Ça te touche, beau. Bah ouais, j'ai reconnu plein d'endroits, les bars, les boîtes.
T'es strasbourgeoise?
Non, mais j'y ai travaillé pour le coup et j'ai trouvé ça très
bien. Pour Arte, justement. Nous allons recevoir Philippe Bruneau, qui est psychiatre, thérapeute de couple aussi, et parler avec lui de justement la question, de la première question, est-ce qu'on peut avoir deux amours ou pas? Parce qu'on sait que la moralité traditionnelle réprouve ce genre de choses, mais nous l'évoquerons avec lui et peut-être que nous soulagerons Fred Sigrist, ici présent. Mais pour l'instant, voici la bande originale de Camille Chamou et François Vincent. Elle est totalement. Mais tu sais tellement bien les faire aussi, celle-là. Dans les années 90, Camille, vous écoutiez.
Antoine dit tout bas, on dansait.
Vous écoutiez France Inter, non?
Ouais,
c'est
attends, après ça se corse. Mais dans les années
90,
c'est
très France Inter, on est d'accord. Dominique.
Toute Latitude Bar, c'était ma passion. Et tout cet album d'ailleurs.
Et le nouveau, Toute Latitude, il est magnifique.
Ouais. Magnifique. Voilà. J'adore Dominique.
Ouais. Camille, au milieu des années 90, vous êtes vous au conservatoire, 7e arrondissement, je crois.
Oui, exactement.
Vous avez suivi également une formation au théâtre du Rond-Point.
Oui, tout à fait.
Et c'est là que vous avez quand même rencontré des gens assez sympas en intervenant, quoi, qui vous ont un petit peu guidé sur la suite.
Ah ouais, exactement. Puis c'était chouette parce qu'on faisait trois spectacles dans l'année au théâtre du Rond-Point, donc c'était super bien. On était direct dans le métier,
très professionnel,
ouais,
tout de suite.
Ouais, exactement.
Et quel était le répertoire de prédilection pour vous? Qu'est-ce qui vous attirait le plus déjà?
On faisait beaucoup de théâtre contemporain, mais alors voilà, c'était des gens, Marcel Maréchal et tout ça, François Bourget et tout, qui nous orientait plutôt vers vraiment des trucs. On travaillait Topor, on travaillait plein de pièces, mais vraiment des années 60, 70, 80, du théâtre contemporain en fait. Beaucoup de théâtre contemporain.
Et ça vous plaisait, ça?
Ah ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, c'était super.
Et les rôles qui vous inspiraient le plus?
Et on a bossé Brecht aussi. Les rôles qui. Tout m'inspirait, moi. Je découvrais, donc franchement, je découvrais, quoi. Tout m'inspirait, j'étais hyper contente.
François Vincent Elis, lui, écoutait plutôt Bruxelles de Dick Hanegaard.
J'arrivais à Paris.
Mmh. Ah oui.
Je te rejoins bientôt, aussitôt.
Je croyais que vous l'avez choisi parce qu'il s'appelle Dick.
Magnifique reprise d'Angèle aussi.
Ah, c'est joli ça.
Dick Labuche.
Elle me soupçonne d'être.
Ah oui, j'arrive en 93 à Paris, j'écoute ça.
Faudrait que t'écoutes la version que Bachung avait chantée de Bruxelles dans Taratata.
Ah oui,
ça te donne la chair de
Bruxelles.
Bah oui.
D'accord. Tout simplement, mais je le vois corse.
Bah oui, mais je suis né en Belgique.
Vous vous installez à Paris. Je crois que vous êtes tout jeune. Vous avez 25 ans, même pas.
Ouais, 23.
Ouais. Et tout de suite, vous commencez. Vous avez un agent.
Oui.
Comment vous faites pour tout de suite avoir un...
C'est marrant parce que en fait c'est Dominique Besnéard qui m'a
repéré.
Ouais, en fait il faisait un colloque sur le métier d'agent à Bruxelles et j'ai un ami qui m'a appelé et dit ah, il y a Dominique Besnéard, je ne savais pas qui c'était. Il y a Dominique Besnéard, c'est l'agent de Depardieu, de Deneuve. Il faut absolument. Donc j'ai été avec un CV, une photo à ce truc. Vous pouvez poser des questions à la fin. Et j'ai levé mon bras et j'ai dit, écoutez, je suis sans doute un des meilleurs acteurs belges
du moment,
donc je pense que ça serait intéressant pour vous de me prendre. Et ça l'a fait un peu marrer, et puis je lui ai filé mon CV, puis je l'ai appelé tous les jours pendant 2 semaines, et ça secrétaire Yakuta.
Il vous a donné son numéro, donc?
Non, j'ai appelé Armédia. Il était chez Armédia, j'avais Yakuta, ça secrétaire. Non, il est pas, ah non, pas de problème, je rappellerai. Et un jour, un dimanche. Allô, c'est Dominique.
Voilà.
Il m'a dit, bon alors, c'est quand vous venez à Paris? Je ne savais pas, j'ai dit, je regardais un peu le 9 et le 10. On mettait 3 heures hein, pour venir à Paris. Et je suis arrivé à Paris, je la fais courte. Hein. Je suis arrivé à Paris, donc au bout de 3 heures, j'ai rendez-vous dans son bureau, il était là. Mais c'est déjà attends, mais c'est beaucoup d'argent, c'est Isabelle Adjani. Bon, j'étais là, très impressionné. Et puis il m'a dit, j'ai pas le temps de vous recevoir.
Ah merde. Ah.
Et donc, il m'a dit, attendez, on se voit demain, et puis on a bu un café, et puis il m'a dit, je vous promets que je viendrai vous voir jouer en Belgique, et il est venu me voir jouer. Et wow. Après, il m'a fait rentrer chez Armédia, chez Michel Feller, bref, qui est devenu producteur maintenant de 10%, tout ça.
Et qu'est-ce que ça a permis d'avoir un agent à ce moment-là, d'aller sur des projets plus intéressants? Parce que j'imagine que Besnéard devait avoir une vision pour vous et faire en sorte...
Enfin, c'est pas avoir un agent, c'est rentrer à Armédia.
Oui, c'était chez Armédia,
parce que
Dominique, lui-même, c'était un électron libre chez Armédia. Ouais. C'était quelqu'un qui connaissait tout le monde, c'est un ordinateur, il savait qui faisait quoi. On n'en fera pas des Besnéard en tant qu'agent. Mais j'ai eu la chance justement de faire une audition pour Château en Suède de Sagan avec Agnès Soral et Jean-Pierre Calfon
au Théâtre Saint-Georges
et Nicolas Vaude et j'ai été pris et j'ai rencontré François Sagan qui voilà, donc
génial,
beaucoup de chance.
Dans les années 2005-2006, François-Vincent Telly, vous écoutiez 57.
Vous êtes bien sur France Inter.
Pardon, on est en 2005 et François, vous êtes à l'affiche de Bunker Paradise.
Ouais, film de Stéphane Liberski, c'est...
Et vous incarnez, je crois, un chauffeur de taxi.
Un chauffeur de taxi. Oui, alors parce que je vous la fais courte aussi, mais en fait, Stéphane Liberski est un ami et je lui ai raconté une vraie histoire qui m'est arrivée quand j'avais 18 ans. J'étais dans une famille bourgeoise, mais pas extrêmement riche, et j'étais tombé amoureux d'une jeune fille qui était, elle, la fille d'un grand promoteur immobilier extrêmement riche. Sa grande question, par exemple, pour aller à Saint-Tropez, où ils avaient une maison, c'était est-ce qu'il prenait l'hélicoptère de la gare de Nice, ou le train. Mais le train, c'est sympa parce qu'on fait des rencontres. Elle avait reçu pour ses 18 ans la dernière BM.
Oui, mais train privé quand même.
Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais découpé dans le journal local, dans le Vlan, un journal belge, j'avais découpé, parce qu'on avait le droit à un cocktail gratuit dans un certain restaurant, si on découpait le truc. Et j'avais invité au restaurant et j'avais sorti mon petit coupon. Ben, j'avais 18 ans et c'était moi qui étais dans la normalité. Et donc j'ai raconté cette histoire parce que j'ai rencontré ensuite son frère qui, en me regardant, a dit à sa sœur, je savais pas que tu sortais avec des Arabes. J'étais extrêmement choqué, c'était d'une violence sans nom.
Ouais.
C'était un espèce de grand nazi blond. Ouais. Et donc, en racontant cette histoire, on a fait ce film Bunker Paradise que je vous invite à voir parce que c'est Jean-Paul Rouve qui joue le rôle de ce grand nazi blond.
C'est l'histoire de l'amour impossible avec une femme riche, quoi.
Avec une femme riche. Ouais. Et qui me font croire que je fais partie de leur milieu. C'est une sorte de dîner de cons, mais ouais, plus gore.
Vous êtes un jouet.
Je suis un jouet au milieu, ouais, et ils sont là, oh là là, attends. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut être comédien, donc je sors à un moment cette phrase que j'ai déjà sortie quand j'avais 20 ans. Je ne veux pas être connu, mais je veux être reconnu dans mon métier, ce qui est touchant et qui est une jolie phrase, qui est vraie, mais qu'il ne faut pas dire. Et je l'ai dit, et là, il y a Rouf qui a kiffé, oh, écoutez, ça c'est merveilleux, tu veux être reconnu dans ton... Mais en fait, t'as envie d'avoir des gonzesses, des piscines, comme tout le monde, t'as envie d'être... Et voilà.
Vous avez quand même dit que le tournage avait été dur. Pourquoi? Vous avez du mal
dur
à sortir,
parce que...
à sortir
Non,
du...
mais parce que Bouly Lanners, Jean-Paul Rouve, Sacha Bourdeau, tous ces gens qui étaient autour de moi étaient vraiment dans leur rôle, et que moi, je me sentais en fait assez proche de ce rôle-là, j'en ai souffert, parce que
trop proche de votre réalité.
Ça bavait un peu sur la réalité, je me disais, de ma vraie condition.
Camille, et dans ces années 2005-2006, vous écoutiez Camille Chamou.
Je n'ai qu'une philosophie. Bien sûr. Accepter comme je suis.
Quelle semaine.
Oui, parce que hier, j'ai écouté. Moi aussi, j'ai écouté.
Je suis métisse, mais pas martyr. Tu chantes bien. C'était ma passion, cette chanson. Le poids levé, viser la lutte. Non,
pas viser l'anus, viser la
tête.
Donc n'oubliez pas les paroles, j'ai oublié là.
Je suis là, c'est pas le roi. Non, pas encore.
Vous validez?
Bah, c'était une passion, ma philosophie.
Forcément.
Je bloque ces paroles.
Attention, le refrain. Camille Chabot.
Viser la lutte. Ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'en ai au corps et au cœur des sacrifices.
Des sacrifices.
Si le faut, j'en ferais. J'en ai déjà fait.
J'en ai déjà fait.
J'ai toujours le poing levé.
Fabuleux.
Bravo.
Tout ça sans reverb.
Mais moi, je pense qu'il faut reconnaître
la manière de replacer son émission dans une autre émission. Moi, je trouve ça absolument magnifique.
Mais viser la lune. Mais c'est
ça. Ceinture noire d'escroquerie. C'est.
Viser la lune.
Attends, tu veux prendre ça?
C'est Roy Lapoutre qui le dit, évidemment. Ça n'a pas le même sens.
Magie, terrible.
Et ben voilà, on enchaîne après ça. Et bien, Camille, vous êtes sur scène à ce moment-là, dans votre premier One Woman Show. Camille attaque. C'était la musique d'entrée sur scène, celle-ci?
Non, c'était pas la musique d'entrée sur scène, parce que je l'assumais pas en public. C'est beaucoup plus chic, la musique d'entrée sur scène.
C'est tragédie.
Mais mais c'est vrai que Amel Ben, c'était ça m'accompagnait. En fait, je sortais beaucoup à l'époque. Et quand on allait dans une espèce de petit endroit à partir de 3-4 heures du matin qui s'appelle Chez Carmen, qui est extraordinaire, rue Vivienne. Et en fait, Chez Carmen, on mettait tout le temps un jukebox, un vieux jukebox. Et on se retrouvait avec un ramassis de gens très, très drôles. Et on mettait toujours ma philosophie d'Amel Bent et on criait. Et puis après, c'était même, voilà, c'était une sorte de refrain de vie de ce moment-là, quoi.
La première scène, le premier stand-up, c'est, je sais pas, il y avait un track particulier, il y avait un goût, un parfum différent de
tout
ce que
vous avez. En fait, la première fois que je suis montée sur scène toute seule avec Camille Attaque, vraiment le premier jour où je l'ai présenté à des professionnels et des gens, je me suis dit, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire la liberté qu'on a quand on est seul sur scène et qu'on a écrit un texte et qu'on le joue soi. Je me suis dit, mais c'est délirant. Je peux dire ce que je veux.
Je suis libre.
Ce que je veux. C'est extraordinaire. Après, c'est également très éprouvant, très exposant. Et voilà, et très, très fatigant, mais
vous
exposant
jamais,
aussi.
Vous n'avez jamais douté, parce que c'est quand même monter les trois marches pour aller sur une scène, que ce soit pour danser, pour chanter, pour faire du stand-up, enfin, il se passe un truc particulier dans la
scène. Il y a un truc extrêmement particulier, le seul en scène, c'est vrai que juste avant de monter sur scène, il peut y avoir un truc à la fois absurde, parce qu'on est tout seul à porter, pourquoi les gens viendraient pour
pourquoi
voir Tom Villa, voilà, et tout le monde ici, beaucoup de gens connaissent cette sensation ici. Mais, moi, je l'ai cassé complètement, parce que mon premier spectacle, j'étais victime d'un trac très fort avant de jouer, Camille Attaque, justement, à cette époque-là, en 2007-2008. Et après, tous mes spectacles que j'ai fait après, donc, Né sous Giscard et L'Esprit de Contradiction, sont deux spectacles que j'ai décidé de commencer en parlant avec les gens. C'est-à-dire vraiment depuis la salle, en prenant les retardataires, parce que je déteste le côté tada.
Ouais. Ça, vraiment. C'est l'école Baffy.
En fait, c'est vrai que quand j'ai rencontré Laurent, je me suis dit, mais il a tellement tout compris, Laurent Baffy, avec ce truc de tisser. Mais lui, il commence le spectacle déjà chez lui. Donc, il descend dans la rue, il est déjà en train de chatter avec les gens, de faire des blagues et nanana. Il arrive au théâtre, il fait des vannes, il est tabaf. Il n'y a pas de limite entre la salle, il n'y a pas de frontière.
Mais c'est aussi un gros bosseur qui prend des notes, qui corrige, qui est jamais d'ailleurs dans l'autosatisfaction, il n'est jamais content.
Il compte les rires
dans une salle.
C'est assez beau. Moi, j'adore ce truc, cette vigilance des gens qui font du divertissement à ce que les spectateurs aient beaucoup, beaucoup de satisfaction, beaucoup de rire. Moi, je n'ai pas ce talent-là. J'essaye, mais je n'ai pas ce talent-là. Je n'ai pas ce talent du nombre de rires, du divertissement extrêmement fort. Et j'admire énormément les gens qui le cultivent parce que je crois que c'est un respect aussi de gens qui payent une pièce de théâtre ou une pièce de cinéma pour vraiment beaucoup rire, quoi.
2013-2014, François-Vincent Tellier, vous écoutiez...
Anecdote. Non, attendez, on est obligé de dire quand même qu'aujourd'hui, François Vincentelli a un t-shirt qui a été porté par Johnny Hallyday.
Mais non. Si. Collector.
Je suis désolée, mais il y a des gens qui regardent ce
t-shirt.
Il y a un
long dessus. Bon, voilà.
T'es obligé de le montrer. Non, mais c'est vrai, en plus, je lui ai dit, il est super sympa ton t-shirt.
Deus Ex Machina.
C'est un t-shirt qu'a porté Johnny. C'est fou, non?
C'est vrai.
Comment vous vous retrouvez?
Il a récupéré.
Alors voilà, je vais faire court. Il se fait que j'ai tourné un moyen métrage à Los Angeles. Eh oui. Et j'étais.
Oh là là,
j'étais
Roy la poutre.
Non,
Joe Boulard. Roy the Beam. Et je logeais chez Nadia Fares, qui est une amie. Et qui est voisine du couple de Johnny. Ouais. Et on a dîné chez Johnny et Laetitia. Et comme Nadia partait 10 jours en vacances et me laissait la maison, Johnny m'a dit mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas loger ici pendant ton tournage ? Jusqu'à un point.
Ouais, et puis voilà, donc j'ai habité
chez lui. J'ai habité son t-shirt.
Et maintenant, il me l'a prêté, j'ai oublié de le rendre.
Il faut juste dire une chose.
Ça va être ricrac.
C'est que c'est la petite anecdote qui prouve. Qui était Johnny et comment il était, voilà. C'est-à-dire il était extrêmement généreux, extrêmement accueillant.
Et si jamais vous étiez déjà ami de Nadia Fares, eh bien il pouvait vous inviter dans sa propriété juste à côté.
Non, mais il a fait.
Ils étaient très amis, il était totalement capable
de dire à quelqu'un demain tu vas pas venir faire de la moto avec moi.
Bah ouais,
Et le gars il dit je veux bien mais j'ai pas de moto. Bah, on va aller acheter. Et il achetait une Harley pour pas citer la marque. Ouais. Et le gars partait et il lui laissait l'Harley. C'était ça, Johnny.
Non, il était extrêmement généreux.
Il faut quand même le rappeler.
Bon là c'était un t-shirt.
Mais si on l'a
encore,
il n'a pas donné.
Il m'invite à Saint-Barth. C'était super. Voilà, c'était
on parlera de l'héritage en 5 minutes. Alors, Camille Chamou.
On était avec François. Vous êtes en 2013, vous êtes sur scène dans Nina. Avec des partenaires assez
avec
sympas.
Avec Berléand, l'acteur qu'on travaille pas. Je tourne avec lui pour l'instant. Je vais le voir ce soir.
Ah, ça y est, il a trouvé du boulot.
c'est le mec qui a 6 boulots en même temps. Ouais, c'est l'Arditi du
téléfilm.
De tout. Qu'est-ce que je voulais ? On était en tournée et on était dans une voiture. On faisait avec Mathilde et François et on écoutait
Mathilde Seigné.
Mathilde Seigné et on écoutait beaucoup Johnny en boucle et en hurlant dans la voiture. C'est pour ça que je disais 2013, ça me rappelle ça.
Ouais, et pour vous, c'est quand même une pièce où vous avez quand même grosse tournée. C'était au théâtre Édouard VII, mise en scène Bernard Murat, où vous avez la sensation que tout d'un coup, vous avez accès aussi avec ces deux autres grands noms à un public beaucoup plus vaste.
Oui, vraiment grâce à Bernard Murat qui m'a toujours fait confiance et qui m'a donné des rôles incroyables, notamment le Dindon qu'on a joué en direct sur France 2. Il m'a donné le rôle du Dindon. Hein. Ouais. Je sais pas comment le prendre, mais c'est un beau rôle quand même. Et oui, parce que j'étais entouré des plus grands acteurs des super acteurs, et il m'a donné le rôle principal. Donc.
Voilà. Bah, y a un moment où ça va savoir que vous jouez bien aussi. Pourquoi vous avez le sentiment d'être un usurpateur?
Non, toujours.
Un voleur de fringues.
Oui, mais pas. Non, je suis pas un
usurpateur. Vous êtes brillant sur scène. Moi, j'ai eu la chance de vous voir plusieurs fois au théâtre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ne vous excusez pas.
Non, je m'excuse de rien. Okay. Je dis juste que c'est grâce à Bernard.
La chance.
Que Bernard Murat, en tout cas, lui, me fait confiance et a conscience que je suis un grand acteur.
Il a d'ailleurs le
slip.
Le mec d'un coup qui dit
super melon,
François Lapastèque.
Camille Chamou, écoutez Skip the Use.
Et Camille, vous êtes à l'affiche des Gazelles de Mona Achache.
Ouais,
vous avez même co-signé le scénario.
Exactement.
Et là, vous vous donnez un rôle, Marie, qui est en couple depuis 15 ans et qui, en fait, décide de quitter un peu son mec, son appart, sorte de petite crise, pour retrouver la liberté, parce qu'elle se pose la question, au fond, le schéma, on parlait tout à l'heure du schéma traditionnel de la famille, du couple, du foyer, c'est peut-être pas pour moi.
Ouais, elle a l'impression que la prochaine étape, c'est la tombe. Enfin, il y a un problème. Ouais.
Le Labrador, le monospace, et après on est foutu, quoi.
Et elle quitte effectivement son mec, mais elle se rend pas compte qu'elle tombe dans un univers particulier, qui est l'univers de la célibataire trentenaire.
Ouais.
Qui est suspecte à beaucoup d'égards. Et effectivement, la bande son était extrêmement importante. Et Mona Achache et moi-même étions hyper vigilantes à ce que ça représente à la fois la joie, la fête, etc. Et puis une forme de mélancolie ou de. Il y a beaucoup d'électro dans la musique des Gazelles. Moi, j'aime beaucoup la BO des Gazelles et on en est très très fiers parce que voilà, ça représente effectivement à la fois la solitude urbaine et l'espèce de solidarité
De filles qui se retrouvent.
Et franchement, c'est un film dont je suis très fière. Je suis contente que vous en reparliez. J'en suis très très fière de ce film. Je trouve que Mona Achache a vraiment fait une réalisation incroyable, un montage incroyable. Et je suis très fière de ce film. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, en fait, par hasard. Et je me suis dit, ah, pas mal quand même.
Comme vous pouvez être fière de J'ai deux amours. Ça passe ce soir. J'ai dit qu'il y avait trois épisodes. J'ai totalement oublié de dire que les trois passaient ce soir.
Donc
c'est pas tous les jeudis, c'est donc les trois ce soir, à ne pas manquer.
Régalez-vous, une longue soirée.
Exactement, à 20h55. Philippe Bruneau, merci de venir à ce micro, Philippe. Vous êtes psychiatre, thérapeute de couple. Vous dirigez des enseignements de sexologie et sexualité à l'université Paris Descartes. Vous présidez même l'Observatoire international du couple, rien que ça. Il y a même un site qui s'appelle couple.asso.fr avec des recherches que vous faites. La question qu'on se posait tout à l'heure était de savoir est-ce que l'on peut, oui ou non, avoir deux amours. C'est le titre de cette série, mais est-ce que la nature humaine, la fidélité, toutes ces questions se posent. Est-ce qu'on a le droit d'aimer deux personnes en même temps?
C'est pas le problème du droit, c'est que ça arrive souvent.
Ah.
Oui, mais ta mère, ça compte pas, Jérémy. Hein.
Ça arrive souvent, c'est compliqué, c'est toujours très compliqué. Alors, moi, je me suis éclaté avec cette série. Hein. Franchement, je vous le dirais, je l'ai regardé hier soir, les trois à la suite. C'est captivant.
On a passé la soirée ensemble, en fait.
Ah ouais, voilà.
Ce qui est clair, en tout cas, c'est que si vous regardez le premier, c'est impossible pas de pas continuer.
Moi, je me suis éclaté parce que ça rassemble tous les thèmes dont nous parlons, les gens qui nous occupent d'amour physique, sentimental. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans, ça a été très bien construit. Il y a même plus que ce que l'on voit, parce que l'histoire, non, elle n'est pas très réalisable comme ça. Mais ça permet, du fait du scénario, d'aborder à la fois presque la gestation pour autrui, des problèmes des couples gays, des couples lesbiens. Et puis alors, il y a une intrication. D'abord, il y a beaucoup d'humour, ce qui permet de passer des sujets vraiment difficiles.
Oui.
Et ça, c'est passionnant. Alors, on peut être amoureux de deux personnes à la fois. Il y a eu tellement de livres, de romans qui ont été là-dessus. Mais nous le voyons, ça donne toujours des choses difficiles, des drames.
Toujours,
c'est jamais facile.
Toujours des drames. Peut-être pas quand même, pas toujours.
C'est-à-dire que ceux qui ne donnent pas de drames, on ne les voit pas. Nous.
Donc ça veut dire que ça marche, ça peut marcher. Ouais.
Alors comment ça se passe au quotidien?
Je sais pas.
Aimer deux personnes. Aimer deux personnes, ça ne veut pas dire vivre à trois sous le même toit.
Exact. Alors aimer deux personnes, je pense qu'on est peut-être quelques-uns ou peut-être nombreux autour de la table ou parmi les auditeurs à avoir aimé à un certain moment deux personnes en même temps.
Et c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour.
Oui, tout à fait. J'allais dire d'une façon différente.
Même Club Med.
Peut-être d'une façon différente, peut-être pas. C'est-à-dire que ça existe. C'est-à-dire qu'on est victime. C'est-à-dire que ça se choisit pas, ça se décide pas. Tout d'un coup, j'ai un attachement fort. Et dans le scénario, c'est assez amusant parce que il y a quelque chose d'ancien qui se réactive avec l'ambivalence. Tiens, je suis gay, mais en définitive, je suis très amoureux de toi, femme. Et par contre, ces deux amours vont donner lieu à quelque chose de très simple. Ce que l'on autrefois, ça pouvait donner lieu à une double vie. Aujourd'hui, moi, je dirais que l'adultère existe très peu. Oui. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, où ça forme un nouveau couple, parce que l'un des deux n'accepte pas, faire ce qu'on appelle un trouple, c'est extrêmement rare.
J'en connais deux.
Mais qui vivent.
Alors j'en connais.
Oui, ça fait six en tout.
Non mais six. Mais alors il y en a qui sont très récents auquel je souhaite tout le bonheur du monde.
Évidemment.
Mais il y en a un autre qui vivent ensemble depuis 5 ans.
Et moi j'en connais un qui
donc je connais un trouble. Donc j'étais contente qu'on en parle dans la série.
20 ans, qui est heureux, qui est équilibré. C'est pas facile, il faut des ingrédients des deux côtés, il faut que chacun trouve son compte.
J'allais dire, il y a si une personne en aime deux, les deux autres peuvent avoir le sentiment d'avoir moins d'amour.
C'est très compliqué.
Ouais, c'est ça.
Le grand obstacle à ça, on le sait très bien, c'est la jalousie. Par contre, ce qui est très vrai, ce que disait Camille tout à l'heure...
Et l'équilibre dans le sentiment d'être plus aimé ou moins aimé que l'autre. Après, il y a une espèce de compétition.
Oui, la jalousie,
Est-ce que ça marche pas avec les enfants?
Parce qu'il peut y avoir la jalousie avec toi, par exemple, tu as deux amours, alors que ton homme n'a qu'un amour, toi, et ta femme n'a qu'un amour, toi. Donc toi, t'en as deux, t'as deux fois plus d'amour, tu aimes deux personnes.
Mais dans un
donc,
trouble,
c'est pas une question
qu'il
m'aime plus ou moins, c'est juste il en a deux, et moi j'en ai qu'un.
Est-ce que ça se divise, l'amour? Est-ce que ça peut pas se multiplier? Moi, j'ai des jumeaux. Je pense pas aimer mes enfants.
Mais non, on parle pas du même amour.
Non, mais on parle d'amour.
C'est un amour aussi, c'est un amour différent. Mais je n'ai pas l'impression que le fait d'avoir deux enfants en même temps, j'avais pas un amour à diviser.
Que ça te divise, oui.
J'ai réussi à multiplier l'amour par deux.
Oh, mais j'ai l'impression qu'on est bien trop moderne dans cette émission.
Quelle est la frontière entre l'amour, le trouble, comme vous le dites, et le libertinage? Il y a un moment où...
Ça, c'est pas la même chose, parce que je crois que le projet n'est pas le même. Le libertinage peut se vivre dans la mesure du consentement de l'autre, ce que pas toujours le cas. Mais là, il s'agit de quelque chose de différent. Il y a même un projet à long terme. Ouais. Et je crois que ce qu'évoquait Leïla il y a un instant, c'est...
Mais personne ne m'a écouté.
Oui.
Tu dis quoi, quoi?
Mais allez-y, je vous en prie, Philippe. On a passé la soirée ensemble, maintenant.
Bah oui, c'est pour ça qu'on est d'accord sur ces sujets.
Allez-y, Philippe.
C'est-à-dire que les enfants peuvent... Et les enfants dans tout ça. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe dans le scénario, ça peut être, à mon avis, fédérateur. Il y a la grande maison, après, dans laquelle on va avoir... Il y a une espèce d'arbre généalogique extraordinaire, dans lequel... Eh bien, peut-être que ça fédère, ça lie les gens ensemble, là où uniquement le sexe les avait rapprochés. Le sexe,
mais oui,
et
puis dans la série, le truc, c'est qu'ils finissent tous par parler. Il y a de la discussion, il y a de la parole. Dans l'infidélité, le principe, c'est qu'on cache. Je veux dire, le principe, ce qui rend malheureux quand
série,
vous parlez de drame, Leïla, ce qui est...
Cache,
non, mais il cache d'abord, mais après, il finit par parler. Ouais. Et on va pas spoiler, bref, je sais jamais comment dire.
Divulgacher,
joli.
Québécois.
Ah, j'adore. Donc, il faut pas divulgacher la série, mais néanmoins, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans l'amour, il y a de la sincérité et il y a de la franchise. Et que du coup, c'est comme ça peuvent se créer. Moi, le trouble là, dont je vous parlais, ben, en l'occurrence, c'est des gens qui se sont parlé et qui ont fini par créer un truc à trois.
Ah, donc, mais, ça a commencé par un amant de l'un.
Ouais.
Voilà.
Exactement. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de se dire que finalement, ce qui fait mal, c'est souvent de cette fait mentir, enfin quand quelqu'un nous a menti, ouais, la trahison, etc. Quand il n'y a pas cette sensation, déjà il y a
le trouble est une solution dans ce livre, mais pas facile à trouver.
Mais est-ce qu'à la base l'Homo sapiens sapiens vit comment à la base? Est-ce que la condition judéo-chrétienne a fait que on est jaloux?
Ah oui, est-ce qu'il y a de la fidélité à la base
dans les branches? Est-ce qu'on couchait un peu avec tout le monde, on était amoureux, on se prenait...
C'est les bonobos là, tu comprends?
Non,
vous avez raison.
Sentiment d'appartenance.
Et c'est mon histoire, je le raconte tout le temps. À l'origine de l'humanité, il n'y a pas de couple. Il n'y a jamais eu de couple. On est bonobo, on est dans un rapport multimâle, multifemelle. Par contre, il y a une très belle réflexion d'un psychanalyste. Nous ne vivrions jamais ensemble si nous n'en avions jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que reproduire ce que l'on voit, mais cette reproduction est très forte. Regardez, on ne tombe pas amoureux parce qu'on le veut. Et en définitive, on va reproduire des séquences qu'on connaît. Et on a appris la jalousie, ce qui est un grand frein aux autres formes de couple.
Vous signez Philippe Renaud, je suis un médecin de l'amour.
Oui, il y en a d'autres.
Hein. Ouais, dans l'Esprit du Temps, édité chez Esprit du Temps, où vous célébrez l'érotisme. Vous parlez aussi du terrorisme de l'orgasme, et on parlait aussi du danger de la pornographie sur Internet, qui peut mettre le niveau de la performance
à un
stade dangereux pour les adolescents croyant ne pas être performants.
Et pour nous tous, c'est-à-dire que ça amène des exigences qui fragilisent les couples. Et c'est vrai que nous sommes nombreux aujourd'hui médecins de l'amour, ce sont des psychothérapeutes, des sexologues, des médecins, des psychologues, à essayer d'accompagner des gens. Le premier objet d'inquiétude de nos contemporains, c'est le couple. Vais-je vieillir et mourir seul ?
Homme ou femme, la problématique est exactement
la
même.
C'est notre angoisse à tous, ouais. On le sait.
Merci Philippe Bonneau. Ouais. Et
à ce soir.
Et merci.
Ah,
oui, merci. Vous avez déjà vu la série.
Et alors, on a d'autres sujets encore.
Il y a une série sur Netflix, c'est Toi, moi, elle, je crois.
J'avais
regardé aussi. Le trouble continuera. mais ce soir, ça s'appelle J'ai deux amours. C'est sur Arte. Les trois épisodes passent sur Arte. Si vous aviez prévu autre chose, comme d'aller voir Chaka Pong, par exemple, à Bercy, sachez que c'est en replay jusqu'au 20 avril. Mais en tout cas, c'est à voir. J'ai deux amours, nos invités. Camille Chamou et François Vincentelli sont là jusqu'à midi et demi. C'est à moi de dire quelque chose.
Normalement, il n'y a pas ce tutoriel teasing.
Mais oui.
Bonjour.
Mais je t'avais pas vu, Tanguy.
Non, ça va. Mais oui.
Ça va. Incroyable.
Grève de la cornée.
Non, mais j'ai cru que c'est Tom. C'est très bizarre. Je vous assure, j'ai eu un flash très bizarre.
Plus vieux.
C'est un camembert québécois qui a été élu meilleur camembert du monde. C'est une honte.
Mais oui. Et depuis, en tant que Français, je me sens diminué tel un acteur de X dont on aurait prélevé le pénis pour en faire une fois séché un fume-cigarette. Au Québec, il y a un concours du meilleur camembert et c'est un camembert local qui a gagné. Cette province nous vole notre savoir-faire. Bientôt, ils vont débouler au Kenya et gagner des marathons. Mais il y a un trucage et je vais vous expliquer.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau dans la deuxième partie de l'émission. C'est la bande originale, soyez les bienvenus. Avec Leïla Kato-Boudadi, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Frédéric Sigrist, Tom Villa et nos invités Camille Chamou et François-Vincent Pellu.
Bonjour.
La route avec J'ai deux amours, cette série sur Arte. Ce sont des histoires d'amour, point. C'est drôle, point. Voilà. Après, c'est vrai que...
C'est addictif, point. Voilà, on veut tout savoir.
C'est beau, ouais. les comédiennes sont belles, les comédiens sont beaux.
Ça fait un peu rêver quand même.
Attends,
moi je trouve que ça fait un peu rêver cette entente.
Liberté d'aimer.
Cette liberté, cette entente, se dire que tout d'un coup ces enfants vont grandir entourés de plein d'adultes qui les aiment.
Bienveillants,
Qui ce soit des papas ou pas des papas.
Ce que j'aime, c'est l'amitié qui règne entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc. Autant les histoires d'amour sont présentes et belles, autant elle est très très forte cette amitié qui vous lie.
Exactement. Bah, nous, les trois, là, on vit ensemble. Le rôle interprété par François Vicentelli, le rôle interprété par Olivier Barthélémy, qui est fantastique d'ailleurs. Tous les acteurs sont chouettes, mais vraiment, c'est vrai, le duo amoureux, moi, je les trouve très, très, très forts et très attachants. Et on vit ensemble en coloc. Et c'est une coloc très joyeuse et très excentrique aussi, mais parce que c'est vrai qu'ils se lèvent en pleine nuit pour étendre des chaussettes parce qu'ils n'arrivent plus à dormir. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas du tout
sur deux élastiques sur séchoir, parce que si c'est un, ça touche,
ça colle et après
ne passe
ça sèche pas. Non, mais c'est ça qui est drôle, c'est le côté, l'aspect domestique que je trouve qui est peu abordé dans les, par exemple, dans les amours homosexuels, dans les relations homosexuelles au cinéma ou en fiction. Je trouve que souvent c'est abordé de manière un peu fantasque ou étrange ou très très sexe.
Et là,
il y a vraiment du quotidien, c'est domestique. Donc, tout le monde vit la même chose en fait dans les histoires amoureuses. Tout le monde finit par étendre des chaussettes à 4h du matin parce qu'il est insomniaque et qu'il n'arrive pas à dormir.
C'est pas Brokeback Mountain, c'est vraiment c'est tout tendre. Et puis c'est un truc qui voudrait pacifier les rapports tout simplement et se détendre par rapport à tout ça, quoi.
C'est vrai.
C'est vrai qu'il faut. Ah. Voilà.
Non. Et puis le compliment qu'on peut faire à la série, c'est que ça ressemble à rien. C'est-à-dire que voilà, c'est pas du déjà vu.
Non.
C'est quelque chose.
Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont leurs enfants qui vivent ça, leurs copains qui vivent ça, des gens autour d'eux qui vivent ça, et c'est pas encore dans la fiction. Ouais. C'est ça qui est chouette.
Frédéric Siris.
Ce matin, quand tu m'as dit que je ressemblais à rien, c'était un compliment.
Ah ouais, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi.
Moi, j'ai pensé à.
Je le prends bien.
D'une certaine façon, à Clara Scheller, qui a été un petit peu le feuilleton, quand j'étais jeune adulte. Et je trouve que cette histoire-là, elle a vraiment ce potentiel. Là, d'incarner pour une jeune génération une forme de repère, peut-être quelque chose qui existe ou qui peine à exister, mais qui tend à devenir une réalité.
Vous étiez dedans, François.
J'étais dans la deuxième saison de Clara Scheller, mais c'est surtout aussi parce que nous, on vit dans des grandes villes. Moi, je suis né à Bruxelles, je vis à Paris, et on pense que l'homosexualité ou les sexualités différentes sont acquises et qu'on est très détendu parce que nous, on vit dans le petit sérail du machin, tout va bien. Mais en province, c'est pas réglé du tout, et c'est un vrai souci pour plein de jeunes qui ne peuvent absolument pas avouer qu'en fait ils seraient plus heureux. Et l'important, c'est qu'on n'a qu'une seule vie.
Il reste encore du travail pour le
moment. Il y a encore beaucoup de. Mais il y a du boulot, mais si on peut participer à notre petite. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à aller voir ça, même les gens qui détestent toutes ces déviances sexuelles. Allez les voir vraiment. Et c'est avec beaucoup d'amour.
Qui détestent ces formes d'amour que eux appellent déviance.
Voilà.
Oui, mais bien sûr. J'étais en train de parler dans leur bouche.
Voilà. Ah, intéressant. Que de l'amour. Il est que de l'amour.
Non, mais. Non, mais c'est vraiment parce que il faut arrêter de. Non, non, mais parce qu'il faut arrêter d'opposer deux France, celle qui dirait qui aurait raison, celle qui aurait tort. Non, on n'a pas raison ou tort. C'est juste détendons-nous.
Et surtout quand on le voit, quand on découvre les choses par la fiction et par une fiction qu'on aime, j'espère en tout cas que c'est le pouvoir des fictions réussies. Et ben, c'est vrai qu'après ça nous semble beaucoup plus normal, beaucoup plus acceptable, et puis surtout on finit par trouver ça sympa.
Sympa. Et on peut s'occuper enfin des vrais problèmes qui ne sont pas ceux-là.
C'est pour ça que la fiction devrait devancer les problèmes.
Les vrais problèmes, c'est l'infirmière qui est à l'hôpital et qui connaît ses vrais problèmes, qui est célibataire et extrêmement
Catherine Salé. Belge.
Il y a Yael également dans la série, Julia Fort aussi, que l'on n'a pas assez cité. Dans cette série, c'est ce soir sur Arte à 20h55. Voici Tanguy Pastureau qui m'attend. Bon Tanguy, je vous préviens, j'adore, pour y avoir vécu en plus, j'adore le Québec.
Eh ben pas moi, j'ai cette province en horreur depuis qu'ils nous ont refilé toutes leurs chanteuses qui hurlent. Alors que moi j'aime le calme, c'est pourquoi j'ai choisi de bosser avec vous et pas avec Vincent Moscato. La seule fois où j'ai admiré des architectes, c'est quand Céline Dion a chanté au Stade de France et que le stade a tenu. Elle peut dépoter 3000 décibels avec sa glotte en acier trempé, soit 3000 de plus que Juliette Gréco. Elle ne s'épile pas, pas besoin, il suffit qu'elle chante et les poils tombent tout seuls. Les Québécois sont donc bruyants, hirsute et continue à porter des chemises de bûcheron, alors qu'il y a déjà 24 ans que Kurt Cobain, qui en portait aussi, s'est donné la mort un soir après s'être vu comme ça dans le miroir de sa chambre. La seule qualité des Québécois, c'est qu'ils sont très à cheval, ou à poney pour les plus petits, sur la francophonie. Ils traduisent tout, pas comme Macron, notre trader sous EPO, qui défend la Startup Nation devant ses helpers. Il a même dit un jour « Entrepreneur is the new France hein, ». C'est Jean-Claude Van Damme, s'il avait pas eu de fonte et avait soulevé à la place des lots de 3 slips. Par exemple, au Québec, ils n'ont pas The Voice, mais La Voix, hein, dont le concept est le même, des post-pubères glapis, tandis que le Nikos local, donc Athos ou Portos, un autre mousquetaire, lui dit « Crois en tes rêves, à vouloir attraper la lune, on finit par toucher les étoiles. » Enfin, toutes ces couillonneries Frédéric Lepésienne, vide de sens que l'autre débite à des pygmées horrifiés de constater le vide contemporain de la pensée occidentale. Ainsi, au Québec, jamais on appellerait une émission 50 minutes inside, mais 50 minutes à l'intérieur. Ce qui, chez nous, sonnerait trop comme le journal du hard, hein, qui serait là-bas, et bien le journal du dur. Au Québec, Ronald McDonald s'appelle Jean-Alain Bouchard. Hein, et il va voir les enfants en leur disant « Qui veut mon sandwich chaud ?» Ce qui fait que les enfants fuient en hurlant « C'est un pervers !» Bref, les Québécois ont des qualités et des défauts. Mais ce midi, alors que l'éditeur de France Inter est arrêté en voiture devant chez lui, en se disant par la barbe de Philippe Delerme « Impossible d'aller déjeuner tant que cette chronique n'est pas finie. C'est si fin et lettré, ça me rappelle des proches, en tout cas quand on ne l'entendait pas, parce que c'est Louis Rigaud qui parlait. » Oui, ce midi, je ne vois que les défauts des Québécois. Car ces derniers, non contents d'avoir exporté le pancake, qui au buffet du petit-déj des hôtels Mercure a remplacé la brioche vendéenne, nous ont volé le camembert.
Quoi ? Le camembert, symbole de notre glorieuse patrie.
Oui, petit à petit, Nagui, la France se fait dépecer de tous ses attributs. Je suis à deux doigts de me déguiser en bébé et d'aller pioncer dans un couffin devant chez Philippot des Patriotes afin que celui-ci m'adopte en direct sur BFM TV et CNews. Figurez-vous que la semaine passée, c'est un camembert québécois, ce qui est aussi crédible qu'un couscous norvégien ou un jambon beurre de Peshawar, qui a remporté au Québec le titre de meilleur camembert du monde. C'est une humiliation pour nous. C'est comme si on apprenait que Jeanne d'Arc, cette dame qui dès 1432 se coiffait comme Eddie de Préto, avait refilé de l'argent aux Anglais pour qu'ils se cassent, hein, en leur disant de toute façon Gérard Collomb arrive dans 300 ans, hein, si vous partez pas c'est lui qui va vous foutre dehors, sauf ceux qui savent monter une start-up. Alors que le camembert c'est la France, on fabrique les meilleurs, aussi bien le Lidl que celui de la marque Repair. Le souci c'est que le nom camembert est tombé dans le domaine public, donc moi demain je peux en faire, hein, ça sentira pas moins bon que le public ici dans le studio à la fin de l'émission quand il fait trop chaud. Il suffit que la pâte soit légèrement salée avec des moisissures superficielle pour que ce soit un camembert. Or, selon cette définition, même Michel Houellebecq est un camembert. Un camembert peut donc être québécois, burkinabé, alien, si Jacques Cheminade s'y met, et celui qui a remporté le prix du meilleur camembert au Québec, je veux dire, c'est un truc industriel de base. Hein, y a une pompe au sortir du pied de la vache, les mecs n'y connaissent tellement rien que parfois un taureau arrive sur la chaîne de production, la machine le chope, il jouit, tout ça se mélange dans une cuve, 4 minutes plus tard, il y a un camembert. Mais si l'on regarde de plus près, parce que j'ai en enquêter. Je suis le Élise Lucet de la pâte molle qui pue.
Ouais, je vois, oui.
Le camembert, l'extra. Hein, qui est le vainqueur, a pour président un certain Tim Schwomski. Hein, son ancêtre a choisi ce nom alors qu'il était en train de bouffer du camembert. Or, ce Schwomski est vice-président du jury qui a couronné l'extra comme meilleur
comme
camembert. Voilà, c'est donc un prix totalement, totalement truqué, qui n'a aucune valeur. Fuck le camembert du Québec,
non,
vive la France, cocorico. J'en place une pour Racine, Molière et Scheim. Seulement, toute la presse en ligne, hein, c'est Danny du journaliste âgés de 21 ans qui vendraient leur mère pour un putain de clic, a repris l'info fièrement en disant « ça y est, ça non plus, c'est plus nous, on est foutus, ils nous prennent le camembert, après c'est la raclette qu'on va perdre, et dans 5 ans, des Québécois vont engrosser nos filles en chantant du garou. » Donc en fait, eh bien, on se relaxe, c'est une arnaque, le camembert, c'est nous, hein, seulement on brade nos appellations. En 2021, figurez-vous qu'il suffira de respecter un cahier des charges pour pouvoir carrément appeler son fromage « camembert de Normandie ». Hein, donc il y aura la Normandie de Montréal, celle de Shanghai, avec des Chinois qui disent « Oh, on a de beaux paysages, mais il fait pas très beau quand même. Hein, » voilà. Bref, c'est la mondialisation made in Normandie.
Ouais, ouais,
c'est
ouais,
bon. Ouais. Vive le camembert,
hein, Normandie libre. Midi, la bande originale.
Voilà. Il a une fois de plus rappelé qu'il y a des gens sur cette station qui ont des combats.
Ouais. Ouais. C'est vrai.
Il a raison.
Mais je suis halluciné encore. Le mot de camembert, mais de Normandie et de le faire n'importe où au monde, c'est dingue. Ça vous choque pas, vous?
Bah si, bien sûr.
Bah dites quelque chose.
Bah non, mais c'est vrai.
Camille Chabou et François-Vincent Telly sont donc dans cette série réalisée par Clément Michel. On l'a pas assez répété non plus. Écrite par Olivier Joyard et Jérôme Larcher. Vous l'avez découverte et vous l'avez tournée quand? Parce qu'elle passe ce soir sur Arte à
20h55, les trois. Exactement un an. On a dû recevoir les scénarios vers décembre de l'année dernière. Et on l'a tournée à Strasbourg entre janvier et début mars, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, Strasbourg, comme le disait Leïla tout à l'heure, a une grande importance dans la série. Mais effectivement, je voulais juste revenir sur un point, parce qu'on a très peu parlé de Julia Fort, que vous avez certainement tous vu, notamment dans le film Camille Redouble, où elle est exceptionnelle, où elle avait été nominée au César. Et elle fait un truc très... On en a parlé avant l'émission, c'est pour ça que je trouvais bête de ne pas en parler là. Elle fait un truc... D'abord, il y a un personnage formidable et très sincère et très tendre dans la série. Et aussi, elle a beaucoup de scènes, effectivement, plus ou moins nues, qui sont toujours extrêmement élégante, extrêmement tendre. Ouais. Et c'est vrai que c'est un rôle assez courageux. Voilà, et que c'est,
et elle
c'est
le fait très naturellement.
Très naturellement. Voilà, et elle est fantastique dans la série. C'est vrai qu'on ne l'avait pas beaucoup recitée. Mais elle et Clément Michel, vous avez raison.
Alors, justement, est-ce que tout à l'heure, on a parlé de la pudeur ou pas d'être nu devant une caméra, mais de jouer des scènes d'amour avec un garçon? Vous en aviez déjà faites, des scènes d'amour?
Oui, dans Clara Scheller.
Ouais.
Ben, c'est toujours compliqué de faire des scènes d'amour, que ce soit avec un garçon ou une fille. Après, moi, j'ai plus l'habitude du corps et de la texture de la peau des filles. Donc, c'est plus naturel pour moi d'embrasser une fille qu'un garçon qui a de la barbe. Et puis,
paradoxalement, embrasser une fille qui n'est pas son épouse devant une caméra, ce n'est pas plus gênant que d'embrasser un comédien en se disant, de toute façon, là, je suis dans un rôle. Non, mais est-ce que ça ne marque pas plus la différence?
Non. De toute façon, voilà, c'est une fiction. On joue des rôles. J'entends, donc, il n'y a aucun souci. On fait semblant de s'embrasser avec amour, mais il n'y a pas d'amour. Mais que ça soit avec un homme ou une femme. Et d'ailleurs, avec Olivier, on en a beaucoup parlé puisque je jouais le rôle d'un bisexuel, ce que je ne suis pas dans la vie. Et je lui ai dit, il faut vraiment qu'on soit très attentif à être aussi tendre, aussi beau, aussi amoureux.
C'est crédible.
Et vraiment, c'est très important.
Même quand vous dansez en boîte de nuit, c'est crédible. Hein, non, vraiment.
Et il y a même une scène en split screen où je passe
moitié d'écran.
Je passe du lit de l'un à l'autre. Et justement, c'était cette scène qui était référente pour moi où je me suis dit, il faut absolument que je sois aussi crédible en hétérosexuel qu'en homosexuel. Donc
Camille, vous aussi, vous êtes posé des questions. Comment se comporter avec une femme? Comment jouer?
C'est ce que vous dites. C'est exactement la même chose avec une femme ou avec un homme, puisque de toute façon, c'est de la fiction. Et le tout, c'est de rendre la situation le plus crédible possible. Y a une scène qui était très jolie à jouer. Puisque effectivement, il y a une grossesse dans tout ça, donc la grossesse plus une relation entre deux femmes, etc. Fallait la rendre la plus tendre et la plus jolie possible, tout en n'excluant pas la sexualité, en n'étant pas au pays des bisounours, quoi. Moi, je trouve ça toujours des défis extrêmement agréables. Et puis,
vous employez le terme de défi.
un défi parce que n'importe quelle scène, je trouve, à connotation sexuelle, il y a un
délicat à tourner.
Ouais, il y a un défi de ça. Et je trouve que effectivement, Clément Michel, il a rendu le tout extrêmement joyeux et doux.
Et pas vulgaire.
Oui, voilà.
Et je pense que vos réponses à tous les deux, elles marquent aussi une période et une génération, parce que je suis pas persuadée, si on avait posé cette question à des comédiens il y a 40 ans, qu'ils nous auraient répondu que jouer un personnage amoureux, peu importe si en face c'est un homme ou une femme.
Il n'aurait pas dit ça.
Ouais, non, mais voilà. Ça veut dire que les mentalités
évoluent, bien sûr.
Ça veut dire que les mentalités évoluent, que la représentation de l'amour a aussi évolué. C'est quand même.
Et ce genre de fiction est important pour ça, exactement.
Voici le rêve, lui qui rêve de trouble peut-être, je ne sais pas, le rêve de Frédéric Sigrist.
Bonjour à tous. Alors, on est jour de grève. Et c'est vrai que tu les testes bien, tes convictions de gauche, hein, pendant une grève. Non, mais pour
tu
moi, c'est comme décider de faire le jeûne alors qu'on t'annonce qu'il y a un buffet à volonté au KFC. Ah, tu testes ta résistance mentale. Parce qu'ils s'en rendent pas compte, les cheminots, de ce que certains Français font pour eux en ce moment. Moi, par exemple, je suis un héros pour la SNCF. Ils devraient donner mon nom à un train. Moi, quand je signe une pétition de soutien aux cheminots sur Internet, sincèrement, j'exagère pas, hein. C'est un peu comme si je donnais un rein. Parce qu'il n'y a rien de plus facile qu'être solidaire de la grève quand t'habites Paris intramuros, que t'es à 20 minutes à pied de ton lieu de travail. Ah, t'as pas de mérite, grosso modo, dans un déménagement, t'es celui qui porte le carton de coussin. Moi, je suis celui qui se tape le frigo à monter au 5e, sans ascenseur, et pas vider le frigo, hein, bien entendu. Moi et ma femme, on habite à 1 heure de Paris. Si vous voulez, la SNCF, pour nous, c'est devenu notre mère. Alors, on peut pas sortir de chez nous si elle nous a pas donné la permission. Donc, quand j'ai découvert ce calendrier des grèves, c'est comme le calendrier des postes, sauf qu'à la place des chatons, il y a des trains qui avancent pas. Eh ben, j'ai pris une grosse inspiration, toi. Je me suis dit, non, te laisse pas aller à la colère, Frédéric, hein. J'avais l'impression d'entendre l'empereur dans Star Wars.
Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Sauf que chez moi, il avait la tête d'Emmanuel Macron. Pense à la privatisation des autoroutes, Frédéric. Pense à la privatisation des télécoms. Résiste ! Prouve que tu es gauchiste ! Du coup, je me suis dit qu'il fallait anticiper. Et vu que la grève commençait mercredi à 21h et que mon spectacle se terminait à la même heure, je savais que je pouvais pas rentrer chez moi. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me payer l'hôtel. Et puis je me suis souvenu que je bossais à France Inter et que j'avais 2 enfants, donc pas les moyens d'aller à l'hôtel. Et c'est là que le directeur du théâtre où je joue m'a dit, bah, tiens, t'as qu'à venir dormir chez moi. J'ai pas mon fils cette semaine. Et c'était extrêmement gentil de sa part. J'ai immédiatement accepté, sauf que son fils, il a un format d'enfant standard et le lit qui va avec. Hein, c'est-à-dire 170 sur 80. Autant dire que quand tu fais 1m83 et 110 kilos, le lit, tu l'entends se plaindre avant même d'être dessus. Hein. Je pense que si le lit, il avait pu parler, il m'aurait tout avoué. Ah, j'ai été construit dans telle ou telle série, boîte traitée ou non. Ma peur, franchement, c'était de me réveiller le lendemain matin et d'avoir absorbé le lit. Non, en plus, le matelas, mon pote me dit, c'est un matelas mémoire de forme. Je me dis, mais le pauvre gosse, désormais, quand il va récupérer son lit, il va dormir dans un puits. Alors, j'ai bien évidemment dormi comme un sarkozyste en garde à vue, hein, c'est-à-dire mal. J'ai fait tout un tas de rêves très étranges, remplis de contrôleurs qui venaient me demander le titre de transport, s'il vous plaît. Et moi, je vais vous le représenter, ça suffisait pas, ils m'en demandaient toujours plus, fiches d'état civil, quittance de loyer, échantillon d'urine, un autographe de Nagui. Horrible rêve, horrible. Puis, voilà, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que pour cette journée, bah, j'allais errer dans Paris parce que je peux pas rentrer chez moi en attendant l'heure de mon spectacle ce soir. Hein, même avant l'émission, je me suis assis sur un banc, hein, comme ça, je regardais les gens fatigués. J'ai téléphoné à ma famille histoire d'entendre la voix de mes enfants qui peuvent pas non plus aller à l'école parce que et ma femme qui peut pas travailler non plus parce que voilà. Et ils m'ont demandé mais s'il faisait beau où j'étais, hein, parce que c'est loin désormais de là où j'habite, 1 heure de Paris, c'est plus possible. J'ai pleuré, je leur ai dit que Paris était une ville très étrange où tout était plus cher. Ces gens sont fous. Ce soir, je vais retourner dans le 18e et le directeur m'a déjà envoyé un texto ce matin, juste avant l'émission. Il m'a dit problème, ce soir, Frédéric, ils sont 7 dans la salle. Mmh. Je dis, mais comment ça? Hier, ils étaient censés être 75. Elle me dit, oui, mais à cause de la grève, ils ont préféré annuler. Bref, le train-train quotidien. Donc, vous savez quoi, ami cheminot? Vous avez intérêt à le garder, ce statut. Vraiment, je vais me battre pour ça. Et même à avoir une augmentation. Et puis, une fois que tout sera fait, vous avez sacrément intérêt à venir voir mon spectacle. Parce que n'oubliez jamais que c'est dans l'adversité qu'on voit sur qui on peut compter.
Merci, Félix.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Camille Chamou et François-Vincent Tellier, nos invités, qui sont à l'affiche de J'ai deux amours aux côtés de Julia Fort, Olivier Barthélémy, entre autres. Il y a également Catherine Salé et Yael dans cette série J'ai deux amours. Trois épisodes ce soir sur Arte à partir de 20h55 et en replay jusqu'au 20 avril. Vous serez également en avril, mi-avril, Camille à l'affiche de Largué d'Héloïse Lang aux côtés de Miu Miu et de votre copine Camille Cotin, que vous n'aviez même pas acceptée dans votre troupe ou votre cours de comédie.
Oh là là, vous vous souvenez de tout que c'est j'avais ça, pas hein. accepté dans ma première mise en scène, mais après on est devenues meilleures copines.
Ouais, pareil. Le film a reçu le prix du public au Festival International de la Comédie de l'Alpe d'Huez. Vous y jouez quel personnage dans Largué?
La sœur psychorigide et extrêmement organisée. Et passez-moi l'expression casse-couille, mais j'aime pas du tout cette expression. Il faut vraiment que quelqu'un me trouve un synonyme. Mais voilà, c'est un personnage extrêmement névrosé et donc... J'espère, très drôle.
Au mois de mai, vous serez dans Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, d'Ilan Klipper.
Ouais, c'est un film très très beau, un film donc auteur, mais très très drôle et très beau avec Laurent Poitrenaud, un acteur magnifique.
Ah, j'adore.
Il est fantastique, qui joue dans Victoria.
Qui est exceptionnel.
Ah, il est exceptionnel et c'est le rôle principal de ce film. Et il joue ce personnage qui est fou sans s'en rendre compte et en même temps est-il fou ou est-il juste artiste. Et c'est très très beau, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête.
Et enfin, vous retrouverez Camille Cotin pour Premières vacances. Vous n'arrêtez pas de Patrick Cassir, que vous connaissez particulièrement bien. C'est son premier film.
C'est complètement son premier film et c'est mon conjoint, hein, on peut le dire. Voilà, allez,
c'est le papa du petit.
C'est le papa du petit. Voilà. Puis voilà, népotisme.
C'est honteux.
Exactement.
Vous avez donc couché pour avoir ce rôle.
Bah, évidemment. C'est la pure vérité.
Quant à vous, François-Vincent Tellier, vous serez dans Philharmonia. C'est une nouvelle série qui arrive sur France 2.
On veut pas savoir.
Non, c'est sur la musique classique.
Ah, waouh. Wow.
Ça mettra tout le monde d'accord.
Et vous, vous y jouez quel rôle?
Le timbalier, le syndicaliste. Timbalier.
D'accord.
Roy, il a timbal.
Vous savez quand ça commencera à diffuser?
Non, on vient de terminer le tournage et je pense que ce sera au mois d'octobre.
À la rentrée. D'accord. Et puis, vous passez de France 2 à TF1. Vous avez deux amours aussi, France 2 et TF1. Et RT, trois amours même. Pour des épisodes de la série Les Chamois, aux côtés de Julie Depardieu et François Berléand, dont vous parlez.
Et Isabelle Gélinas.
Qui a enfin retrouvé du travail.
Et je vais faire du théâtre l'année prochaine. Et on va jouer Hard au théâtre.
Mais non!
Je vous annonce là en primeur.
C'est un scoop.
Et avec de la Renaissance,
la même distribution,
avec une partie de la distribution, parce qu'il
y aura du belge.
Il y aura, ben justement, il faut lui faire un petit message parce que pour l'instant, on attend sa réponse. Tu lui diras. Et
c'est ton truc. Il parle d'un comédien.
Et le canard à l'orange avec Nicolas Briançon et Anne Charrier et Alice Dufour. Et ça, ce sera pour
formidable Anne Charrier qui est en ce moment au théâtre avec en attendant Bojangles où elle est extraordinaire. Elle l'est, que ce soit dans cette pièce ou dans une autre.
On va aller de Charlie Dupont.
Voilà.
Pour info.
D'accord. Donc Charlie accepte d'aller au théâtre. Hard, c'est un scoop, au théâtre de la Renaissance à la rentrée.
À la rentrée, on sait pas.
C'est chaud.
C'est tout nouveau.
Des excuses à présenter.
Eh oui, des excuses. Désolé pour les enfants de moins de 12 ans ce matin qui, en écoutant France Inter et qui, en toute logique, avaient prévu, comme tous les jeudis, de regarder Arte ce soir. Nagui l'a dit, YouPorn, ok, mais deux amours, il faut faire gaffe. Désolé
Non, il faut regarder.
Désolé pour la verge de François, François Vincentelli qui a.
Dit quoi?
La verge. Qui a appris ce matin qu'elle ne fera pas la même carrière que ses amis les fesses. Oui, c'est injuste, mais en même temps, le monde est injuste. Désolé pour David Hallyday et Laura Smet, qui ont appris en écoutant ce matin que François Vincentelli avait plus touché d'héritage que eux. C'est injuste, mais en même temps, le monde est injuste. Désolé pour Tanguy Pastureau, qui après avoir été confondu avec un autre par le service photo de l'Obs, a été oublié, non vu et non reconnu par sa vie. Il avait complètement méprisé. C'est injuste, mais le monde est injuste. Désolé pour Evelyne Delia et toutes les présentatrice météo dont le boulot depuis ce matin est devenu nettement moins intéressant car François Vincentelli l'a dit, ça y est, c'est le printemps pour tous.
Ça restera.
Désolé pour Frédéric Sigrist, mais j'ai hâte que Daniel Morin revienne.
Oh, tu diras pas ça longtemps.
Ouais, c'est vrai. Déjà là maintenant, je le regrette de l'avoir dit. Déjà là maintenant. Vous avez 10 secondes chacun pour dire à l'antenne pourquoi il faut regarder J'ai deux amours ce soir sur Arte.
Camille... Parce que c'est extrêmement drôle et que vous rirez autant que pour ceux qui l'ont connu devant Jacqueline Maillan. Oui, parce que c'est un boulevard moderne.
Ah oui, d'accord. Je
boulevard moderne au théâtre ce c'est soir. Vrai. Bah voilà, j'ai deux amours. Oui. Ça suit son époque, c'est tout.
Puis il faut voir ça parce que c'est moderne, parce qu'il y a de la tendresse et de l'amour et que c'est important.
Oui, parce qu'ils sont tous beaux en plus.
Non, c'est mais ouais, au-delà de ça, ouais, y a pas que. C'est vrai. Avec le recul, j'ai pas pensé à ça.
Cette image, quelque chose de plénitude, une sorte de plénitude, de tendresse. Ils sont, c'est pas
plénitude,
beau
c'est
physiquement.
Aussi le mot que
c'est pas tant le physique. Je parle pas d'argument physique. C'est ce que ça renvoie. C'est beau.
C'est ça. Et soit c'est votre vie et vous serez hyper content de l'avoir enfin représenté parce que ça n'est pas encore représenté. Soit c'est pas votre vie et vraiment regardez pour savoir ce qui existe aujourd'hui.
Ouais, vous exactement. Savez que ça existe.
Mais ça existe.
Exactement. Merci. Bonne journée. Bonne diffusion
merci,
ce soir.
Merci.
Soir. C'est donc J'ai deux amours. On vous souhaite une très bonne journée. Demain nous serons là avec Kayron et c'est 60 minutes seul en scène à pleurer de rire également. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 13h, ça sera Bruno Duvic. Bonne journée sur Inter.